nous sommes entre Loire et Loing. C'est le magazine du Gâtinais sur C2L et sur les internets. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Au sommaire de ce quatrième numéro, nous rencontrerons Catherine Armesen, autrice, qui parlera des nombreux romans qu'elle a déjà à son actif. Nous irons nous balader du côté du lac de Chalette en compagnie du maire Franck de Maumont, de Marc Godet, le président du conseil départemental, pour évoquer la labellisation de ce beau patrimoine naturel qui fait désormais partie des espaces naturels sensibles du Loiret. Nous prendrons aussi le train en compagnie de François Bonneau, le président de la région Centre-Val-de-Loire, qui vient d'investir 450 millions d'euros, rien que ça, pour doter le réseau ferroviaire régional de wagons voyageurs modernes et confortables. Mais pour commencer, je vous propose de trouver le bonheur, rien que ça, du bonheur au fil des saisons. C'est le titre du premier livre écrit par Déborah Kreff, oui oui, celle qui fait la Minute Bonheur, la chronique que vous pouvez écouter sur C2L depuis quelques années. Et c'est à partir de ces chroniques qu'elle a écrit ce livre dont elle nous parlera tout à l'heure. Mais pour commencer, tiens, je vous propose justement d'écouter une de ses chroniques, la Minute Bonheur.
La Minute Bonheur sur C2L.
En ce début d'année, on les rencontre partout, coccinelles, trèfle à quatre feuilles, petits ramoneurs ou fer à cheval. Tous ces nombreux symboles portent bonheur, illustrent joliment nos cartes de vœux ou s'offrent, pour certains, aux amis et proches que l'on aime tout particulièrement, pour leur apporter santé, joie et bonheur tout au long de la nouvelle année. En France, les superstitieux misent sur le trèfle à quatre feuilles, le fer à cheval, la patte de lapin ou le pompon rouge d'un béret de marin. Mais ailleurs, quels sont les objets qui promettent chance et bonheur? Eh bien, de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, trouver un penny par hasard sur le sol porterait chance pour la journée, mais uniquement s'il est découvert côté face. La pièce est ensuite gardée précieusement dans le porte-monnaie, jetée dans une fontaine en formulant un vœu ou utilisée pour les jeux de grattage. Sur le bassin méditerranéen, en Turquie, l'œil bleu est très répandu. Ce symbole rond en verre répond présent dans les véhicules, sur les murs des maisons et se décline en de très nombreux bijoux. Selon une croyance remontant à l'Antiquité, il repousserait le mauvais sort et attirerait la chance. Idem pour la main de Fatma ou de Fatima en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ce signe très populaire, nommé également Kamsa ou Kamsa, ce qui signifie 5 en arabe, représente la main protectrice de Dieu. En Chine, ce sont les poissons qui apporteraient prospérité et richesse, leur nom signifiant abondance. C'est pour cette raison que de nombreux Chinois possèdent un aquarium dans leur maison ou leur commerce. Les porte-bonheur et autres gris-gris à travers le monde sont donc très différents. Voilà la preuve que la chance et le hasard ne se maîtrisent pas. Au moment de jouer au loto, méfiez-vous donc des superstitions, des croyances et autres méthodes miraculeuses pour influencer vos gains.
Déborah Kreff et sa Minute Bonheur, c'est la base du livre « Quel sort du bonheur au fil des saisons ». Elle nous en parle juste après une petite pause musicale.
Je ne vois pas les heures de Moscou. Quoi que je fasse ou que je sois, je ne vois que vous. Ouh, ouh, ouh. Je ne vois que vous.
Au festival du film d'horreur, je ne vois pas le loup-garou. Dans la vitrine du confiseur, je ne vois pas les roues.
Je ne vois que vous. C2L Radio.
www.c2l-radio.fr.
Bonjour Déborah.
Bonjour Sandrine.
Alors, je lis deux, trois phrases de ton dernier livre. La vie est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer, Albert Einstein. Ça, c'est les petites phrases d'introduction qui précèdent chacun des articles de ce livre que tu viens donc de sortir, qui s'appelle « Du bonheur au fil des saisons ». Voilà. Alors, Déborah Kreff, tu as été longtemps la directrice de C2L ?
5 ans en tout. En fait, j'ai travaillé à C2L pendant 12 ans, et oui, dont 5 ans direction.
Maintenant, tu te retrouves à la médiathèque.
Voilà, j'ai ensuite changé et depuis un an, je suis en effet responsable de la médiathèque et de la ludothèque de Chalette.
Donc, tu es chef littérature, c'est ça ?
Oui.
Donc, c'est super que la responsable de la médiathèque sorte un bouquin.
Bah oui, c'est vrai que finalement, c'est plutôt pertinent.
Et puis, ça te raccroche donc à ton passé de journaliste et de directrice d'antenne à C2L, puisque ce bouquin, il contient toutes les chroniques que tu as faites durant combien d'années sur C2L ?
Durant 2 ans, oui, 2 ans. Ça fait depuis 2 ans que j'ai commencé ces chroniques. En fait, voilà, ce livre est un recueil de toutes les chroniques que je présente depuis, oui, 2 ans, plusieurs années, donc à la radio. Ça s'appelle la Minute Bonheur, donc c'est en podcast et ça s'est diffusé chaque semaine sur la radio. Et j'ai décidé en effet d'en faire un livre parce que j'aime beaucoup l'oralité des mots, mais j'avais cette envie finalement de conserver une trace et de pouvoir consulter toutes ces pastilles du bonheur dans un même livre. Voilà,
c'est la Bible du bonheur.
C'est la Bible du bonheur.
Ça, c'est vendeur.
C'est très vendeur. Ouais, c'est bien. Oui, non, mais c'est ça. Et puis, ce côté charnel du livre, voilà, c'est quand même sympathique pour tourner les pages. J'aime beaucoup écouter la radio, mais voilà, j'avais cette envie de.
Donc, je t'ai demandé tout à l'heure pourquoi avoir choisi ce thème du bonheur. Et tu m'as dit fort justement, c'est parce que pendant des années, je donnais des mauvaises nouvelles à la radio. Il fallait que je fasse le pendant de ça.
Oui, je te l'ai dit effectivement en off tous les matins. Donc avec mon collègue Patrice Azouzard, on parlait des faits divers absolument tragiques. Il y a eu les crues en 2016, ensuite la pandémie où il fallait parler des morts tous les matins. Enfin, et donc au bout d'un moment, ça atteint quand même d'en parler. C'est quand même pas très réjouissant. Et donc j'ai vraiment ressenti ce besoin au fond de moi de pouvoir de contrebalancer tout ce flot de mauvaises nouvelles en créant une chronique résolument positive et optimiste. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il faut aussi parler de choses heureuses.
Alors, les choses heureuses, selon Déborah Kreff, ça peut être « j'aime la galette », les objets portent bonheur, la câlinothérapie, ça c'est mignon ça, j'ai hâte de lire, les bienfaits évidemment des chiens-chiens et des chats-chats, les animaux de compagnie, écrire un journal intime, les mantras, etc. Où est-ce que tu as trouvé tous tes thèmes, toutes tes inspirations ?
Eh bien, je lis beaucoup, tout simplement dans des articles, en lisant les journaux, aussi dans des livres. Voilà, j'ai lu beaucoup de livres aussi de développement personnel, des livres. De toutes mes lectures, ça m'a donné des idées ensuite d'écriture des chroniques. Et après, il y a eu d'abord ce travail sur les chroniques. Et ensuite, quand j'ai commencé à présenter les chroniques à l'antenne, c'est là que m'est venue finalement l'idée du livre, je cite de la radio, c'est Didier Roquet, qui est l'ancien directeur de la radio, qui m'a dit « Ah, mais elles sont originales, tes chroniques !» Il m'a dit « Ça existe nulle part ailleurs !» J'ai dit « Oh, quand même, t'exagères !» Il me dit « Non, franchement, c'est super !» Et du coup, j'ai été faire des recherches sur Internet, je me dis « Oui, c'est vrai que finalement, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'air d'en avoir trop ailleurs. » Et donc, je me suis dit « Pourquoi pas finalement aussi en faire un livre, après tout
Voilà, donc, et puis la petite histoire très personnelle, c'est que tu attendais un bébé, c'est ça ? Tu m'as pas dit que tu avais écrit tes chroniques pendant que tu étais
J'étais en congé maternité. Oui, je les ai écrits lors de mon deuxième congé maternité, oui, tout à fait.
Je sais pas, est-ce qu'on est dans un état particulier de bulle de bonheur ?
Ah bah oui, oui, effectivement, hein, c'est effectivement, il y a les hormones qui...
C'est ça. Oui, donc... Je sais pas si c'est
voilà, hormones, voilà. Mais... Et puis c'est vrai qu'on a du temps, donc oui. Voilà, ce temps, bah voilà, pour en profiter pour être créatif, hein, ouais. Quelque chose, tout à fait.
Est-ce que ça correspond vraiment à ton caractère de base, de chercher le bonheur, d'être très positive?
Je dirais que oui.
Est-ce si. Que ça t'a transformé?
Oui, quelque part, ça transforme. Ah. Je pense qu'avant, j'étais plus négative et aujourd'hui, je suis plus optimiste. Effectivement, ça m'a transformée. Oui, mais ça, c'est même sûr. Je regarde les choses différemment, oui, plus avec confiance, j'ose plus les choses. Ça m'a transformée, quelque part, oui.
Est-ce que, lors de tes chroniques, sur ces deux ailes, il y avait des réactions d'auditeurs?
Très peu. Non.
Si la parole n'était pas donnée aux auditeurs, il ne pouvait pas y en avoir.
Oui, mais non. Après, oui, il y avait. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les statistiques sur le site de la radio. Donc je sais quelles chroniques me fonctionnent le plus et lesquelles étaient les plus écoutées. Les chroniques qui plaisent, visiblement, là dernièrement, oui, en début d'année, j'avais présenté les objets porte-bonheur. Alors c'est là, je ne sais pas pourquoi, il y a un raz-de-marée de gens qui ont écouté.
Les pâtes de lapin, tout ça.
Oui, voilà, non, les pâtes de lapin, les pâtes à quatre feuilles, ça, visiblement, ça passionne. Mais oui, beaucoup. Alors les réseaux sociaux, quand j'ai parlé du faux bonheur des réseaux sociaux, celle-là, elle était
très... Ça, c'est très intéressant.
Oui, ça, les réseaux sociaux, ça...
C'est ce que tu... D'ailleurs, tu démarres par cela. Exactement, dans ton introduction.
Exprès, effectivement, parce que comme j'ai vu que ça fonctionnait bien en podcast, c'est pour ça que dans mon introduction, j'ai parlé l'ASMR. Je ne sais pas si tu connais, c'est pas forcément... C'est une méthode de relaxation... qui est assez en vogue. L'ASMR, oui. C'est quand, par
exemple,
quand on va chez le coiffeur et qu'on ressent ce petit frissonnement dans le cou, qui nous traverse. Voilà. Et bien, il y a des vidéos, il y a des gens qui se disent ASMRistes qui sur Internet font des vidéos ASMR où ils vont frotter du papier de journal, faire des petits sons, des chuchotements. Et en fait, des personnes regardent ça pour ressentir ce frissonnement qui parcourt toute notre échine du dos. Et voilà, l'ASMR, c'est un mot qui a été le plus recherché sur Google en 2019. Donc c'est oui, donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et donc j'étais étonnée de voir c'est une chronique qui avait bien fonctionné à la radio.
Bon, il faut que je lise parce que si comme moi vous n'avez pas tout compris sur l'ASMR, c'est là-dedans.
Oui, ce sera plus mieux d'expliquer effectivement. Mais voilà, en fait, il y a forcément des choses à apprendre dans ce livre. C'est un livre qui se veut vraiment très informatif, donc je pense que tout le monde peut découvrir des choses qu'il ne connaissait pas forcément dans ce livre. Mais moi, j'ai appris plein de
Alors, il y a des petites choses qui m'ont interloqué. T'as à chaque fois le mois avec des mots-clés, c'est ça ?
Tout à fait.
Le mois de mai, c'est le mois du muguet.
Ça rime.
Et pas que. Hein ? Oui. Et donc, ce sont tous ces petits moments de bonheur qu'on peut attraper sur un mois.
C'est vrai, c'est ça. C'est tout à fait ça. Oui, là, j'ai essayé de choisir les mots qui résumaient un peu ce mois à travers mes articles. C'est tout à fait ça, oui.
C'est très mignon. Et puis, il y a aussi des poésies.
Oui, par les citations notamment.
Il y a des citations, comme on le disait tout à l'heure. Là, il y a Maurice Carême. Je suis contente, j'adore Maurice Carême. Est-ce que ça t'a donné envie, Déborah, de continuer à écrire?
Évidemment.
Évidemment. Surtout que maintenant que tu baignes complètement au milieu des livres, tu vas continuer.
Oui, en fait, j'ai toujours écrit.
Hein. T'as toujours écrit.
En général, on a la fibre en soi quand on écrit. Oui, depuis que j'ai su écrire, j'ai commencé par les journaux intimes. Au collège, j'écrivais aussi. J'avais écrit une nouvelle qui avait été primée dans un concours régional, clin d'œil à la nouvelle à Saint-Jean-de-Bray. Donc ça m'a donné déjà à l'époque, ma nouvelle avait été publiée déjà dans un recueil. Et donc forcément, je me suis dit, c'est que l'écriture, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Au lycée, c'était plus la poésie. J'étais responsable notamment de la rubrique poésie dans le journal du lycée. Après, au cours de mes études, j'ai fait des études de lettres, j'ai écrit deux mémoires, dont notamment un mémoire sur l'image du corps d'Amélie Nothomb, que j'ai eu la chance de rencontrer plus tard. Et puis après, finalement, en toute logique, j'ai fait un travail d'écriture. Ensuite, je me suis orientée vers le journalisme, où là, tous les jours, j'écrivais forcément les fameuses informations négatives
à la radio. Et l'éclaireur du Gâtinais.
Oui, ouais, l'éclaireur, parce que j'ai effectivement remplacé un moment Sandrine à Courtenay. J'ai écrit quand tu étais en congé maternité.
C'est l'histoire de fille. Hein. L'histoire de fille, c'est congé maternité à un moment donné. Quand même. Enfin, pas toujours d'ailleurs, on n'est pas obligé.
Mais j'ai remplacé remplaçais effectivement Sandrine quand elle était en congé maternité. C'est moi qui écrivais les articles à la place du côté du secteur de Courtenay.
Ils ont trouvé très très bon à l'époque.
Ah oui, je remercie les Courtenay, c'était très sympathique, c'était un vrai bonheur d'aller là-bas. Non, vraiment, ils m'ont très bien accueilli.
C'est... Donc raconte, qu'est-ce que tu nous prépares
Non,
on n'a pas du tout un petit...
Ah oui.
Un petit scoop
Non, j'ai plusieurs idées, ouais. Mais après, j'ai rien de concret pour le moment réellement. Mais oui.
Ton livre, on va le trouver où?
Alors, on va le trouver très prochainement là, dans les librairies Montaloir, parce qu'il vient tout juste de sortir. Donc là, on le trouve sur Internet, sur plein de plateformes. Bon, déjà chez mon éditeur, chez Spinel. Il est en vente à la Fnac, Amazon, chez Cultura, Librairie Erol, Décitre, enfin, plein de... Voilà. Et bientôt, donc, dans les librairies montargoises, là, ça va être vraiment imminent. Voilà, tout simplement.
Tout simplement, le bonheur, selon Déborah Creff. Merci.
Merci beaucoup, Sandrine.
Du bonheur au fil des saisons, c'est dans toutes les bonnes librairies. C'est entre Loire et Loin, sur ses deux ailes, et en vidéo, sur notre page Facebook, entre Loire et Loin. Partagez, likez, commentez, échangez avec nos invités. D'ailleurs, vous pouvez leur envoyer des petits messages, tout ça, les interpeller. Un peu de musique à suivre. Et nous irons nous promener du côté du lac de Chalette.
Sei abuso, tiro partido de mim, abuso, tiro partido de mim, abuso, tiro partido de mim, abuso.
Mas não faz mal, é tão normal. Ter desamor é tão cafona, sofrer dor, que eu já nem sei se é meninice ou cafonice. O meu amor, se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Você
tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Zelle Radio, depuis Chalette,
entre Loire et Loin.
Entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle que donc tout ce que vous entendez dans cette émission peut être vu en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin, sur YouTube également, et que vous pouvez commenter, liker, partager. Ça nous fait plaisir et ça nous intéresse de savoir si ça vous plaît. Et comme promis tout à l'heure, nous partons en promenade du côté du lac de Chalette et plus particulièrement dans les deux zones naturelles près du lac, le Grand Roseau et les Prés Blonds. Vous aurez l'occasion prochainement d'en savoir un petit peu plus sur ce patrimoine naturel. Il vous sera proposé des choses sur sa flore, sur sa faune, etc. Car ces zones viennent justement d'être labellisées espaces naturels sensibles par le département. Et on retrouve donc Patrice Avzard sur place avec du beau monde.
Effectivement, le président du département du Loiret, Marc Godet, est venu en balade sur le site du Grand Roseau à Chalette. Il faut savoir que lors de la session de janvier dernier, le département du Loiret a acté la labellisation des sites du Grand Roseau et des Prés Blonds en espace naturel sensible. Par le biais de cette labellisation, la ville de Chalette va bénéficier sur une durée de 5 ans d'un accompagnement financier du département d'un montant total de 170 000 euros. De quoi pour la ville poursuivre les aménagements à vocation pédagogique et paysagère de ces sites. Pour se rendre compte de l'intérêt de l'aide accordée à la ville, le président du département du Loiret, Marc Godet, accompagné des conseillers départementaux Gérard Dupaty et Gérard Malbeau, se sont rendus sur le site du Grand Roseau pour une visite guidée sous la houlette du maire de Chalette, Franck de Montmont, de son adjointe à l'environnement et agenda 21, Marie Razamouli, et de Catherine Pépin, la responsable de la MNE. Dans un premier temps, Nicolas Chevalier, chargé de mission valorisation du patrimoine naturel, nous présente les principaux axes de ces espaces naturels sensibles.
Bah, disons, ce qu'on peut dire, c'est sur les espaces naturels sensibles, voilà, s'il y a vraiment des espèces qu'on doit protéger, on n'emmène pas forcément le public directement à proximité. L'objectif, c'est de canaliser le public sur le site, mais pas forcément à l'endroit de l'espèce au risque de la faire disparaître. Voilà, c'est ça. Donc après, au niveau des espaces naturels sensibles, donc là, au niveau du département, on en a 15, qui sont répartis sur l'ensemble du département. Donc il y en a beaucoup sur l'axe ligérien. Et l'objectif, effectivement, c'est de voir de nouveaux sites, de nouveaux paysages pour préserver la faune et la flore. Donc ça, c'est le premier aspect, on va dire, d'un espace naturel sensible, préservation au niveau de la biodiversité. Après, le deuxième axe sur un espace naturel sensible, c'est effectivement avoir un accueil du public. Donc un accueil du public qui doit être présent sur le site et mise en place, on va dire, d'animation pour faire connaître le site au grand public, aux scolaires, mise en place de panneaux pédagogiques, donc voilà.
Le département a labellisé ici la plaine du Grand Roseau ainsi que les Prés Blonds en zone, en espace naturel sensible. Qu'est-ce qui fait que justement le département labellise ainsi de tels espaces?
Alors je dirais que c'est un peu dans notre ADN de politique de protection des milieux.
Marc Godet, président du conseil départemental du Loiret.
Le département a cette compétence sur les espaces naturels sensibles parce qu'on perçoit une taxe départementale sur les espaces naturels sensibles qui nous permet de financer des actions en direction de la protection de biotopes, la protection d'écosystèmes, etc. Donc tous les ans, on lance un appel à candidature auprès des communes pour justement labelliser un espace. Alors c'est un ou deux, c'est une ou deux communes. Là cette année c'est une commune qu'il a fallu sélectionner parmi un certain nombre de communes candidates, parce que toutes les communes, en gros, elles nous disent voilà, moi j'ai tel territoire qui est vraiment, qui mérite d'être labellisé, d'autres endroits, etc. Donc Chalette a été élue cette année, la commune retenue pour cette labellisation, qui permet de mobiliser des financements importants. C'est-à-dire qu'on va mobiliser 170 000 euros sur 5 ans qui vont aider la commune à la fois en fonctionnement mais aussi en investissement pour mettre en protection ces espaces, pour aussi l'ouvrir au public. Ça aussi c'est un aspect important, ouverture au public, sensibilisation des plus jeunes, donc il faut qu'il y ait des panneaux, qu'il y ait des panneaux explicatifs, il faut qu'il y ait des animations sur le territoire pour que l'espace naturel sensible soit, je dirais, réussi. Donc voilà, ici on a tous les ingrédients sont là.
Et on en dénombre combien à travers le département de ces espaces naturels sensibles?
Alors pour l'instant on en a 15. Donc l'idée c'est d'aller toujours plus loin, c'est d'en labelliser au moins un par an, voire deux par an. Mais aussi, on peut labelliser aussi des espaces naturels sensibles sur des propriétés privées. Donc ça c'est une autre démarche que nous avons engagée. Donc là il doit y avoir une réflexion avec les propriétaires privés, avec les communes aussi. Donc ça c'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. Mais en gros, sinon sur ces espaces-là, l'exemple de Chalette, c'est sur un domaine public, un domaine communal, où là on peut agir, je dirais, facilement parce que le propriétaire c'est la commune et donc on passe une sorte de convention entre la commune et le département.
On peut voir que le Montargois est bien doté dans ces espaces.
Amilly, Villemandeur et Chalette maintenant.
Et oui, quoi, pour monter un peu plus loin, le Cercanceau sur Dordi, bon, c'est un peu plus loin. Mais effectivement, c'est montrer que la vallée du Loing a cette richesse naturelle qu'il faut préserver. Et je pense que en agissant ainsi, en protégeant ces espaces, ben, on contribue aussi à maintenir une biodiversité. On contribue, je dirais, simplement à la protection de l'environnement.
Bien donc, le département apporte 170 000 euros pour les zones humides. Il y a la Grande Prairie et les Prés Blonds. Ça va apporter quoi pour ces zones ?
Eh bien écoutez, ça va apporter une aide en fonctionnement et en investissement.
Catherine Pépin, responsable du service environnement de la ville de Chalette.
En fonctionnement, ça permettra de financer en partie le poste d'animateur pour les scolaires et le grand public pour les animations de sensibilisation à la nature, pour aussi toutes les associations de réinsertion qu'on paye pour intervenir sur des travaux sur le Grand Roseau ou les Prés Blonds pour couper des arbres, entretenir le site. Et puis en investissement, le service environnement, le service des espaces verts qui s'occupe de l'entretien des sites, a pour projet l'installation d'un sentier qui pourrait être le sentier du Héron, qui serait jalonné de postes avec de la lecture, des jeux, de quelque chose de ludique pour permettre aux gens de comprendre ce qui s'y passe, qui y vit, quels animaux on peut trouver, quels oiseaux on peut trouver, quels arbres on peut trouver, qui permettront aux gens de mieux comprendre le rôle de ces sites dans le respect et dans la garde de la biodiversité et aussi son rôle en cas d'inondation.
Oui, donc à apporter, on va dire, un plus au tourisme, à la balade de tout un chacun.
Tout à fait, ça peut favoriser le tourisme vert sur la commune et puis les gens qui y habitent pouvoir comprendre pourquoi on entretient ces sites et pourquoi on les maintient et l'importance de les maintenir, surtout les zones humides qui disparaissent en France très très souvent. Qu'il y a effectivement des espèces animales et végétales qui sont vraiment, on dit, inféodées, c'est-à-dire qui ne peuvent vivre qu'avec des zones humides.
Et justement, on sait à peu près le nombre d'espèces recensées, notamment dans la Grande Prairie.
Alors écoutez, le chiffre, je l'ai pas en tête là, et vous me posez une colle, mais on a un nombre impressionnant de libellules. Alors, c'est de la famille des odonates, on a des libellules, des agrions, notamment une libellule rouge qui est protégée. On a aussi des papillons. On a aussi, ça c'est au niveau des insectes, on a aussi au niveau des végétaux, des espèces qui sont vraiment caractéristiques des zones humides, avec par exemple la grande cardère qui sert aussi de cabaret aux oiseaux, le pigamon jaune qu'on trouve effectivement sur ces zones humides, et puis tous les végétaux qui naturellement dépolluent l'eau, comme les ruches des marais qui il y a dans ces rhizomes des micro-organismes qui mangent la pollution. Donc on a vraiment une végétation et des animaux, insectes ou mammifères, hein, qui sont vraiment, et notamment tous ces oiseaux d'eau et toutes ces fauvettes aquatiques comme la locustelle, comme les fauvettes à tête noire, qui sont là parce que c'est une zone humide.
170 000 euros pour les Prés Blonds, la Grande Prairie, ça renforce la politique environnementale de la ville.
Oui, bien sûr.
Franck de Maumont, maire de Chalette.
Cette labellisation du Grand Roseau décidée par le conseil départemental va nous permettre de poursuivre notre politique d'entretien, de valorisation, de mise en valeur des espaces naturels sensibles de la commune. C'est le Grand Roseau, c'est les Prés Blonds, c'est les zones boisées, c'est les zones de coteaux le long du canal. Bref, un ensemble de zones tout à fait naturelles au cœur de la ville. Et comme ces espaces naturels se situent au cœur de la ville, eh bien, ils sont fragiles et il faut les protéger et il faut éduquer les habitants, sensibiliser les habitants à des comportements éco-citoyens.
Après la balade autour du lac, nous irons faire un petit tour en train tout à l'heure avec le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau. Merci d'écouter Entre Loire et Loin sur ces deux ailes, un peu de musique. Et on se retrouve tout à l'heure.
I had to kill.
www.c2l-radio.fr. Rénov ABP Entreprises, spécialiste de la fermeture aluminium, bois PVC, véranda, installation et dépannage 24h sur 24. Fenêtres, stores, volets roulants, portes d'entrée, garage, portails, clôtures, véranda, rideaux métalliques et bien plus encore.
Offre promotionnelle.
4 fenêtres achetées, un volet roulant offert. Aimez notre page Facebook et essayez de trouver le code promo pour gagner un volet roulant supplémentaire. Rendez-vous au showroom 24 Gaillardin à Montargis. Plus de renseignements au 02 38 26 56 84 ou sur la page Facebook Rénov ABP. C2L Radio.
C2L.
Si vous avez eu l'occasion de prendre le train entre Nevers et Paris, vous avez pu constater la vétusté des wagons. Il faut dire qu'ils avaient 50 ans. Et le moment est venu de tout changer, de faire profiter les voyageurs de tout le confort moderne. Un voyage inaugural de ces nouveaux wagons était organisé la semaine dernière et nous l'avons fait en compagnie de François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire.
Bien donc, le MAG entre Loire et Loin sur C2L Radio. Nous sommes ici devant la gare de Montargis avec le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, bonjour.
Bonjour.
On est présent ici parce que La région a lancé en décembre de nouvelles rames pour les trains et ça inaugure un futur radieux pour la SNCF en région Centre-Val de Loire.
Absolument, nous venons de faire ensemble un trajet Gien-Montargis. Le train vient de Nevers, va rejoindre Paris, cette fameuse ligne Paris-Nevers sur laquelle nous avons décidé de rénover la totalité des corails. Ils avaient 50 ans, donc nécessité absolument de les rénover. Nous rénovons Paris-Nevers, nouveau train, Paris-Orléans-Blois-Tours, nouveau train, Paris-Vierzon-Bourges, la totalité des corails d'ici la fin 2022 vont être remplacés par ces régios 2N. Pourquoi 2N ? Parce que deux niveaux. Vont être remplacés par ces trains qui sont des trains offrant vraiment un excellent confort, offrant une sécurité en termes de régularité plus grande. Pourquoi ? Ben parce que comme toute la motorisation est nouvelle, etc., moins de risques de panne. Et on sait pour les usagers de ces trains que l'exigence de régularité est très très importante. Ce sont 32 rames donc, qui vont circuler, qui vont être mises en service progressivement au cours de 2021-2022. C'est parti. Et puis c'est un énorme investissement de la région. Plus de 450 millions d'euros. Plus de 450 millions d'euros pour rénover ces trains, pour faire que le ferroviaire, le transport ferroviaire, si important par rapport aux enjeux climatiques, si important par rapport aux enjeux de mobilité, puisse vraiment trouver toute sa place. Le ferroviaire, pour un territoire comme le Montargois, comme le Giennois, par exemple, c'est complètement essentiel. C'est le domicile travail pour de nombreux habitants. C'est aussi le développement de l'attractivité touristique. C'est la possibilité pour des gens qui vivent à Paris aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à se dire « Tiens, on irait bien vivre dans le Montargois. » Eh bien oui, vous pouvez venir vivre dans le Montargois avec une mobilité de grande qualité qui est en train de se mettre en place vers Paris. Vraiment un saut important. Et j'ajouterai un point, nous construisons le centre de maintenance de ces trains Paris-Orléans-Tours, de ces trains Paris-Vierzon-Bourges, de ces trains Paris-Montargis-Gien. Le centre de maintenance, il va être à Orléans, 60 millions d'euros investis par la région pour que nous puissions avoir une maintenance préventive en temps réel, évitant les pannes et permettant là encore une meilleure régularité, une meilleure qualité de service pour les voyageurs.
Oui, un gros investissement de la région. Comme vous dites, pour les voyageurs, la région avait déjà fait un grand pas en accordant une aide à ceux qui notamment travaillent en région parisienne.
Oui, les abonnements domicile-travail, vous avez raison, Mobilico, c'est important. Et puis les gens qui vont à Paris en occasionnel, on a récemment décidé de baisser le prix pour que ce soit plus facilement accessible aux personnes, notamment aux personnes qui veulent être accompagnées quand elles prennent le train plutôt que la voiture. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Nous continuons cela. Vous savez aussi le fort investissement de la région à Dordive, à Ferrières, pour rénover les gares. Actuellement, je me bats pour qu'il y ait l'installation de ces distributeurs automatiques de billets sur place, pour qu'il y ait ces afficheurs électroniques pour une qualité de service. Donc, sur cette ligne Paris-Nevers, pour Dordive, Ferrières, Montargis, Nogent, Gien, Briard, dans notre région. Il s'agit de vraiment de très gros investissements, mais qui sont essentiels pour ouvrir ce beau territoire du Montargois, ce beau territoire du Génois, à une nouvelle attractivité, une attractivité renforcée pour apporter un service public aux habitants de ces territoires.
Quand on parle ligne SNCF, il y en a une qui a disparu depuis bien longtemps. Beaucoup aimeraient la revoir, la ligne Châteauneuf-Orléans. La région se bat aussi pour essayer de la réouvrir.
Il faut la réouvrir. J'avais travaillé d'arrache-pied à monter un projet qui avait bénéficié de financements européens, de financements nationaux. Malheureusement, la déclaration d'utilité publique n'a pas été faite suite à l'enquête publique. Je l'ai regretté, j'ai dit aussitôt, on ne baisse pas les bras, on ne renonce pas. Au contraire, on va relancer une étude, relancer un projet et aboutir pour que nous ayons Orléans, Châteauneuf, mais aussi Châteauneuf-Gien-Briard, c'est-à-dire une ligne qui soit une ligne ferroviaire qui a été abandonnée il y a bien longtemps, qui est essentielle aujourd'hui, une ligne ferroviaire qui soit réhabilitée. Aujourd'hui, l'étude est en cours de développement. On en connaîtra à la fin du printemps l'essentiel et il y aura une décision à prendre. Mais ma détermination, elle reste entière pour que nous ayons cette ligne Orléans-Châteauneuf-Gien-Briard.
Quand on pense voyageurs, on pense aussi à la jeunesse qui bouge beaucoup, la mobilité. La jeunesse, on l'a s'est mise à mal, notamment en cette période de pandémie. La région, elle, investit toujours également en direction de la jeunesse. Et le dernier en date, ce sont les jobs solidaires.
Oui, les jeunes sont très, très, très impactés par cette crise. Ils sont impactés parce que quand ils sont étudiants, certains ont perdu leur job. Et comment acheter sa nourriture, comment se loger quand on n'a plus ce revenu indispensable à certains. Beaucoup ne peuvent plus aller sur leur lieu de cours, ils font des cours à distance, ça n'est pas simple, il faut avoir le matériel, etc. Donc les jeunes, il faut que nous soyons très attentifs à eux, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient apprentis, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes salariés. La région se mobilise, et notamment avec la création de jobs pour ceux qui l'ont perdu, les jobs étudiants. Nous avons créé 500 jobs étudiants dans les associations. Un étudiant qui va se présenter à une association, l'association va avoir par la région une aide de 1 000 euros pour créer sur 2 mois minimum un job pour un étudiant qui va venir faire travailler à la solidarité dans ce moment particulier, travailler à l'information des citoyens. Et puis par ailleurs, en ce qui nous concerne à la région, dans nos services, à Orléans, dans nos lycées, nous créons 150 jobs que nous allons financé sur le budget de la région. Au total, vous le voyez, 650 jobs portés par la région, parce que nous voulons que nos jeunes gardent confiance en l'avenir. Je ne veux pas que cette génération soit une génération sacrifiée par le Covid. Il faut les aider à être en énergie, à regarder l'avenir avec toutes les grandes mutations qui s'opèrent, mutations environnementales, mutations numériques, mutations dans les lieux de vie. Il faut que ces jeunes renforcent leur confiance en l'avenir. C'est absolument essentiel, c'est la volonté de la région, c'est la volonté que je porte.
Monsieur Bonneau, merci.
Merci.
Entre Loire et Loin sur C2L et en vidéo sur les internets, Facebook, YouTube, n'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne rien rater et échanger avec nos invités. Un peu de musique et on se retrouve après pour accueillir Catherine Armesen et tous ses livres. À tout à l'heure.
Bien sûr, nous soumet des orages. 20 ans d'amour, c'est l'homme en femme. 1000 fois tu pries ton bagage. 1000 fois je prie mon envol. Et chaque meuble se souvient. Dans cette chambre sans berceau, des éclats de vie et tempête, où plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube au clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges, tous et tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amours. Il fallait bien passer le temps. il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. De l'aube au clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Pour des amants, bien sûr tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Oh, laissez-moi faire le hasard, on se méfie de fil de l'eau, mais c'est toujours le tendre guerre. Jusque la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime, moi, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube au clair jusque la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube au clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
C2L Radio
89.3.
Entre Loire et Loin sur C2L, faut-il encore présenter Catherine Armesen? En fait, non, parce qu'en fait, elle est assez grande pour se présenter toute seule. Et c'est au micro de Sandrine Manteau.
Bonjour Catherine Armesen.
Bonjour Sandrine Manteau. Comment vas-tu?
Oh ben, ça va bien. Ça va bien parce que tu m'as apporté tous tes bébés.
Ah bah ben, tu m'avais dit, alors j'ai
tout
apporté.
Il y a beaucoup de bébés. Catherine a fait plein de bébés. Je ne sais pas trop, ça fait longtemps qu'on se connaît et je me demande toujours quelle est la faculté de cette femme de pouvoir étirer le temps à l'infini, puisque Catherine, elle est avant tout médecin.
Ah oui, je revendique.
Et puis médecin avec plein de projets oui. De toutes sortes, tu vas nous en parler. Et à côté de ça, depuis très longtemps, tu vas nous dire depuis combien de temps, tu es également écrivain.
Ok. Alors, médecin, je suis depuis très longtemps, depuis le siècle dernier. Et effectivement, j'ai un parcours de médecin de famille. Mmh. Et j'ai bifurqué ensuite pour aller sur des sujets, on va dire, un peu plus émotionnels, que sont en particulier la douleur et les soins palliatifs. Et c'est là que je me suis aperçue que l'écriture m'aidait dans l'exercice de la médecine et que la médecine m'aidait dans l'exercice de l'écriture. Donc en fait, c'est très complémentaire.
Alors il y a en effet certains de tes livres, si je ne me trompe pas, qui sont un petit peu liés à ton parcours de médecin.
Oui.
Hein, lesquels, dis-nous?
Alors, dans ceux que j'ai apportés, parce qu'il y a la marionnette.
Voilà, je me disais ça. Oui. Tac, on va prendre celui-là. La marionnette.
Alors, voilà. La marionnette, c'est l'histoire de Camille, qui est infirmière et qui pense épouser le prince charmant, qui s'appelle Alexandre, hein, qui est médecin. Ça, c'était un petit peu un pied de nez. Et en fait, c'est l'histoire du piège de la manipulation mentale.
Mais c'est horrible, on change, ça me fait peur. Tu as fait quelque chose sur l'alcoolisme ?
Oui, alors l'alcoolisme n'est plus édité en papier, mais on retrouve Dérapage en numérique.
Dérapage en numérique. Tu as écrit également sur les sectes.
Pareil, manipulation n'est plus qu'en numérique. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Je connais bien ton œuvre.
Oui, mais de toute façon, tu as été la première journaliste à me faire un article. Ça se fait, ça.
Alors, il y a... Ah oui, Connu de nous seuls, il est assez récent, c'est l'histoire des secrets de famille,
oui,
qui traînent dans les familles.
Oui, alors écrire juste une intrigue sur un secret de famille, ça ne m'emballait pas parce que tout le monde le fait et que c'était trop, c'était pas assez important pour, enfin, ça servait à rien de faire un nouveau livre sur les secrets de famille. Donc là, moi en fait, j'ai plus beaucoup lu sur l'analyse transgénérationnelle. C'est-à-dire l'impact qu'ont les secrets de famille sur nos vies. Et ça, je peux te dire que, on va dire qu'un secret de famille à la première génération, c'est bon. Il est indicible, on ne le dit pas. À la deuxième génération, ça devient un fantôme. Donc, on sait encore qu'il y a quelque chose, mais à la troisième génération, c'est un spectre. Et donc, ce qui traverse les générations, ce sont les émotions. Et donc, Anne Ancelin, qui est la grande psychologue, psychanalyste à la base de la psychogénéalogie, parle de la crypte du fantôme. Donc, c'est vraiment très intéressant.
Je n'ai des frissons.
Comme sujet, hein. Mon livre après, c'est une intrigue. Il y a quand même un secret de famille à découvrir. Enfin, voilà. Mais,
oui, c'est ça. Il y a toujours de la fiction, de toute façon, dans ce que tu fais.
Hein. Un roman, c'est avant tout pour distraire le lecteur.
Voilà.
Mais au-delà de ça, ça peut être aussi mettre en bouche pour un sujet plus généraliste.
Voilà. Alors, bon, il y a d'autres choses. Tu me reviendras. Il y a aussi des livres pour enfants. Moi, je me pose quand même cette question. Tu t'écris quand ?
Bah.
Ça m'intéresse, hein, parce que je vais prendre des notes, je vais te copier.
Alors je dors, je le dis,
je dors. C'est vrai.
J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, sans ça je ne vaux rien.
Mais c'est pas possible.
Mais, en fait, j'écris beaucoup à la voix.
Oui.
Donc mon meilleur ami, c'est mon dictaphone.
T'écris à la voix,
bah, oui.
C'est passionnant ça.
C'est comme ça. Il faut que je me raconte une histoire, c'est ma façon à moi de me mettre en transe hypnotique. Parce qu'en fait, l'écrivain, c'est celui qui se met quand même en transe hypnotique. Il part dans un autre monde. Donc il faut décoller. Bon, à chacun son truc. Moi, si je me mets devant mon clavier comme ça, je peux rester au bout de 2 heures, il n'y a rien à faire. Moi, ce qu'il faut, c'est que je me balade. Et puis, je jette les idées dans le dictaphone. Donc, ce n'est pas bien écrit. Après, je le reprends au clavier. Mais c'est comme ça que je fonctionne.
D'accord.
Voilà, je me fais mon cinéma.
Donc voilà, je finis encore pour certains, encore d'autres bouquins. Matière grise. Matière crise, excusez-moi.
Crise.
Ça, ce sont des nouvelles. D'ailleurs, alors, c'est marqué, la partie des ventes de ce livre sera reversée à la Fondation 1 pour l'étude du cerveau.
Oui.
D'accord.
Ça, c'était l'idée d'un de mes éditeurs qui était ami avec Thérèse Plagnol, qui est une femme merveilleuse. Bon, un médecin merveilleux. Et cette femme avait donc fondé la fondation Thérèse Plagnol pour la recherche sur le cerveau. Elle a été notamment une des pionnières du Doppler. Enfin bon, on ne va pas développer. Et voilà.
Ça.
Ah, ça c'est mes petits chéris. Ça,
ça c'est important. Le dernier, évidemment, l'actualité de Catherine, ce sont les amoureux d'Ariège.
Oui.
Voilà. Mais... En fait, avant ça, nous, on s'est connus avec l'Ariégeoise.
Exact, c'était mon premier livre, l'Ariégeoise, 2003, Le temps passe.
Et t'as fait tout ça depuis ?
Ouais.
Alors, ça parle, ces bouquins, puis il y a eu aussi les jumelles de Ver...
Oui, de Vernajoul.
Vernajoul, excuse-moi, c'est difficile à dire.
Ouais, c'est mon petit village, ouais. Ça.
C'est ton petit village.
Mon petit village.
Donc,
tu es
d'origine ariégeoise.
Ouais, la famille de ma mère est fuxéenne, c'est-à-dire deux fois, d'accord. Donc, et j'ai vécu toute mon enfance en entendant parler du journal de mon arrière-grand-mère. Et donc, j'ai repris ces cahiers, effectivement, qui décrivaient l'époque, pour faire l'ariégeoise, le premier, en 2003. Et ça se passait pendant la guerre de 14. Donc dans ces cahiers, j'ai trouvé plein, une mine de renseignements sur tout ce qui était l'arrivée des soldats par les trains, enfin plein de choses. Et on m'a toujours demandé la suite de l'Ariégeoise et je m'étais dit je ne le ferai jamais.
Alors après la suite, c'était ça.
Alors du coup, j'ai fait les jumelles de Vermajoule parce que j'avais envie de retourner dans ce petit village par la pensée. Mais non, c'était pas la suite. Ça, c'est l'histoire de jumelles qui sont séparées pendant à leur naissance. Et puis j'ai craqué. J'ai craqué en faisant la suite de l'Ariégeoise, mais qui se lit pas. Hein. Ça se lit de manière totalement indépendante.
Indépendante, oui.
C'est une histoire d'amour un peu particulière entre Delphine et Georges. Dans les années 30.
Ce qui est très intéressant, c'est que tu développes un thème qui nous est cher, c'est l'émancipation de la femme.
Eh bien oui, parce que la série des Ariégeoises, c'est ça. C'est-à-dire que le XXe siècle, quand on le parcourt, on passe quand même de la belle époque avec les robes, les corsets et en fait les femmes totalement emprisonnées. On va passer à travers la guerre qui va libérer le corps de la femme parce qu'il faut qu'elle fasse des mouvements pour travailler hein, globalement, beaucoup plus peut-être que sous l'influence de Paul Poiret. Et après, on va repasser dans une deuxième vague de servitude des femmes qui est l'entre-deux-guerres et qui va durer jusqu'à ce que finalement Charles de Gaulle donne aux femmes le droit de vote, etc. Mais donc c'était une façon aussi de rappeler que entre les deux guerres, une femme était complètement prisonnière des hommes. Elle avait son père d'abord, ensuite son mari, qui pouvait très bien manger tout son argent et partir. Et puis voilà, le divorce n'était reconnu que pour faute, hein, et il fallait encore le prouver. Elle n'avait pas de chéquier, elle n'avait pas le droit de travailler sans l'avis de son mari. Et quand même, l'histoire des chéquiers, ça a duré jusqu'à les années 60. Et ça me paraissait très intéressant de remettre cela dans les mémoires, ne serait-ce que pour rendre hommage à la deuxième vague aussi des féministes, hein, qui va être en 68, où on les a prises pour des cinglées, des folles, des... ou peut-être aussi des femmes peu recommandables, alors qu'en fait, merci, parce que on est né après libre. Et ça, cette liberté-là, c'est vraiment très important.
Je t'écoute, Catherine, et depuis tout à l'heure, je me dis que t'es l'image de la femme libre,
oui,
de sa vie, dans sa vie. Dans...
Oui.
Mais c'est extraordinaire.
Tous les jours, je me dis, j'ai de la chance parce que je suis déjà née dans le côté de la planète qui ne me meurt pas de faim. D'accord. Et deuxièmement, je suis née effectivement dans une génération de liberté. Liberté complète. C'est-à-dire, et en plus moi je suis pas un perdreau de l'année, donc j'ai. Mais ça m'est égal parce que j'assume
c'est
très bien.
Oh, c'est de mieux en mieux même, hein, t'es trop fin.
C'est de mieux en mieux. Non mais c'est vrai, c'est autre chose. Et mais écoute, moi, mon adolescence, il n'y avait pas le sida, il y avait déjà la pilule, on n'avait pas de chômage. Et moi j'ai eu une adolescence, mais alors, de rêve, agréable et tout. D'accord, donc il faut vraiment se dire que oui, les femmes qui sont nées dans les années 60 et même dans les années 70 ont beaucoup de chance. Enfin, pas toutes, hein, malheureusement. Mais moi, ouais.
Bon, je crois qu'on a oublié quelques-uns de tes bouquins.
Ah bon?
Oui,
tu crois?
Les Verriers.
Alors, Les Verriers, j'en parle plus parce que mon cœur se serre parce que la série des Verriers que j'avais fait en hommage au Verrier
de Bagnot,
oui, ben, il n'est plus publié. Alors voilà, je fais un... Ok, on va faire un appel. Qui est l'éditeur qui veut se republier ma série
parce
des Verriers?
Parce que c'est très beau, cette histoire des verreries industrielles du côté de Bagnot.
Oui, c'était très intéressant. En plus, ça m'a permis de voyager dans cette époque, d'apercevoir que ce tout petit village de Seine-et-Marne, de rien du tout, verrerie industrielle, 1753, sous l'impulsion de Saint-Gobain, a pénétré dans la vie vraiment des Français par deux modèle de verre vraiment refuge, le biberon.
Le biberon.
Ouais, le biberon.
Ah, et puis pas que, tu sais, il y avait aussi les petits trucs, les petits... Oui, mais qu'on mettait dans le lait et puis ça vibrait.
Bon, bah ça y est, tu me colles là.
Ah, je te montrerai.
Voilà.
En tout cas, tout ça pour dire
Et puis la télé?
Eh ben,
Ah bah à oui. La télé, les ampoules de verre, quand au nom du noir et blanc, et puis après même de la couleur.
Et donc tu t'es intéressée à tout ça parce, ouais. parce que, et on fait la boucle, t'étais tout bible là-bas.
Exactement. Et un jour où je me baladais devant Thompson, où je voyais toutes ces croix là, quand Thompson était fermé, je me suis dit, le maire m'a toujours demandé d'écrire quelque chose sur le village. J'ai jamais voulu parce que je ne suis pas historienne. Et je me suis retournée et véritablement, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, j'ai regardé ce qu'on appelle les maisons moulées là. Et j'ai vu mon héroïne à sa fenêtre, je me suis dit elle va s'appeler Valentine et on va voilà, rendre hommage à toutes ces familles que je connais bien, tous mes patients qui dorment au cimetière gentiment. Là. Et bah oui, mais c'est la vie ça, d'accord. Et j'ai écrit ce livre et vraiment c'était un bon moment de ma vie.
Voilà, alors moi quand j'ouvre un bouquin de Catherine Armesen, je vais lire une histoire et puis derrière, en filigrane, il y a la femme qui a écrit le livre. Voilà. Et j'espère que ça fera la même chose pour vous. Merci Catherine.
Merci Sandrine.
Merci Sandrine, merci Catherine. Les livres de Catherine Armesen sont dans toutes les bonnes librairies de la région, librairie du Hérisson, librairie des écoles par exemple. Nous étions entre Loire et Loin pendant 7 heures sur ces deux ailes. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que cette émission est disponible en podcast sur le site de la radio, cdeuxailes-radio.fr, sur Mixcloud également, entre Loire et Loin. Ce magazine est également visible en vidéo sur YouTube et sur la page Facebook de l'émission Entre Loire et Loin. On remercie toute l'équipe, Sandrine Manteau, Patrice Savzar, JB, Émilie, Anita. On remercie bien sûr nos invités. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, sur ces deux ailes. Il sera question de culture, de musique, de peinture, de plein de choses, avec des gens beaux et intéressants, comme toujours. Bonne semaine et passez un bon week-end à l'écoute de ces deux ailes.